Chapitre 11. Mérite et héritage dans le long terme. Nous savons à présent que l'importance globale du capital n'est pas très différente en ce début du XXIe siècle de ce qu'elle était au XVIIIe siècle. Seule sa forme a changé, le capital était terrien, il est devenu immobilier, industriel et financier. Nous savons également que la concentration des patrimoines demeure très forte, bien que sensiblement moins extrême qu'il y a un siècle et au cours des siècles passés. La moitié la plus pauvre ne possède toujours rien, mais il existe maintenant une classe moyenne patrimoniale possédant entre un quart et un tiers des patrimoines, et les 10% les plus riches n'en possèdent plus que les deux tiers, au lieu des 9/10. Nous avons également vu que les mouvements comparés du rendement du capital et du taux de croissance, et de l'écart RG, permettaient de rendre compte d'une part importante de ces évolutions, et en particulier de la logique cumulative qui explique les très fortes concentrations patrimoniales observées dans l'histoire. Mais pour mieux comprendre cette logique cumulative, il nous faut maintenant étudier directement l'évolution à long terme de l'importance relative de l'héritage et de l'épargne dans la formation des patrimoines. La question est centrale, car dans l'absolu, un même niveau de concentration patrimoniale pourrait fort bien renvoyer à des réalités totalement différentes. Il se pourrait que le niveau global du capital soit resté le même, mais que sa nature profonde se soit totalement transformée, par exemple parce que nous serions passés d'un capital largement hérité à un capital épargné au cours d'une vie à partir des revenus du travail. Une explication possible souvent évoquée pour un tel changement pourrait être l'allongement de l'espérance de vie, qui aurait pu conduire à une hausse structurelle de l'accumulation de capital en vue de la retraite. Nous allons voir que cette grande transformation de la nature du capital a été en réalité beaucoup moins forte que ce que l'on imagine parfois, voire inexistante dans certains pays. Selon toute vraisemblance, l'héritage va jouer au XXIe siècle un rôle considérable et comparable à celui qu'il a joué dans le passé. Plus précisément, nous allons aboutir à la conclusion suivante. Dès lors que le taux de rendement du capital est fortement et durablement plus élevé que le taux de croissance de l'économie, il est presque inévitable que l'héritage, c'est-à-dire les patrimoines issus du passé, domine l'épargne, c'est-à-dire les patrimoines issus du présent. D'un point de vue strictement logique, il pourrait en aller autrement, mais les forces poussant en ce sens sont extrêmement puissantes. L'inégalité R supérieure à G signifie en quelque sorte que le passé tend à dévorer l'avenir. Les richesses venant du passé progressent mécaniquement plus vite, sans travailler, que les richesses produites par le travail et à partir desquelles il est possible d'épargner. Presque inévitablement, cela tend à donner une importance démesurée et durable aux inégalités formées dans le passé et donc à l'héritage. Dans la mesure où le XXIe siècle se caractérisera par un abaissement de la croissance, démographique et économique, et un rendement du capital élevé, dans un contexte de concurrence exacerbée entre pays pour attirer les capitaux, ou tout du moins dans les pays où une telle évolution se produira, l'héritage retrouvera donc sans doute une importance voisine de celle qui était la sienne au XIXe siècle. Une telle évolution est déjà nettement perceptible en France et dans plusieurs pays européens, où la croissance s'est largement réduite ces dernières décennies. Elle est pour l'instant moins prononcée aux États-Unis, essentiellement du fait d'une croissance démographique plus soutenue qu'en Europe. Mais si la croissance finit par s'abaisser un peu partout au cours du siècle qui s'ouvre, comme le suggèrent notamment les prévisions démographiques centrales des Nations Unies, ainsi qu'un certain nombre de prévisions proprement économiques, alors il est vraisemblable que le retour de l'héritage concernera l'ensemble de la planète. Pour autant, cela n'implique pas que la structure des inégalités au XXIe siècle sera la même qu'au XIXe, d'une part parce que la concentration patrimoniale est moins extrême, il y aura sans doute davantage de rentiers petits et moyens et moins de très gros rentiers, tout du moins dans l'immédiat, d'autre part parce que la hiérarchie des revenus du travail tend à s'élargir, la montée des supercadres, et enfin parce que les deux dimensions sont plus fortement corrélées qu'autrefois. on peut être en même temps super cadre et moyen rentier au XXIe siècle. Le nouvel ordre méritocratique recommande d'ailleurs cette alliance, au détriment sans doute du travailleur petit et moyen, surtout s'il est un rentier minuscule. L'évolution du flux successoral sur longue période. Reprenons la question par le commencement. Dans toutes les sociétés, il existe deux façons principales d'atteindre l'aisance, par le travail ou par l'héritage. Nous excluons ici le vol et la rapine, qui ne sont pourtant pas totalement absents dans l'histoire. Le cas de l'appropriation privée des ressources naturelles sera évoqué dans le prochain chapitre. La question centrale est de savoir lequel de ces deux modes d'enrichissement est le plus répandu et le plus efficace pour accéder aux différents déciles et centiles supérieurs de la hiérarchie des revenus et des niveaux de vie. Dans le discours que Vautrin tient à Rastignac et que nous avons évoqué dans le chapitre 7, la réponse ne fait aucun doute. Il est impossible, par les études et le travail, d'espérer mener une vie confortable et élégante, et la seule stratégie réaliste est d'épouser Mademoiselle Victorine et son héritage. L'un de mes tout premiers objectifs dans cette recherche a été de savoir dans quelle mesure la structure des inégalités dans la société française du XIXe siècle ressemble au monde que décrit Vautrin, et surtout de comprendre pourquoi et comment ce type de réalité évolue au cours de l'histoire. Il est utile de commencer par examiner l'évolution sur longue période du flux successoral annuel, flux que l'on appelait parfois l'annuité successorale au XIXe siècle et au début du XXe siècle, c'est-à-dire la valeur totale des successions et donations transmises au cours d'une année, exprimée en pourcentage du revenu national. De cette façon, on mesure l'importance de ce qui est transmis chaque année, donc l'importance des richesses venues du passé et qu'il est possible de s'approprier par héritage au cours d'une année donnée, par comparaison aux revenus produits et gagnés au cours de cette même année. Rappelons que les revenus du travail représentent eux-mêmes autour des deux tiers du total de ce revenu national et que les revenus du capital rémunèrent en partie l'héritage lui-même. Nous allons analyser le cas de la France, qui est de loin le mieux connu sur longue période. Puis nous verrons que cette évolution se retrouve dans une certaine mesure dans les autres pays européens, et nous examinerons enfin ce qu'il est possible de dire au niveau mondial. Le graphique 11.1 représente l'évolution du flux successoral en France de 1820 à 2010. Deux faits apparaissent clairement. Tout d'abord, le flux successoral représente chaque année l'équivalent de 20-25% du revenu national au XIXe siècle, avec une légère tendance à la hausse à la fin du siècle. Nous verrons qu'il s'agit là d'un niveau extrêmement élevé pour un flux annuel, et que cela correspond à une situation où la quasi-totalité du stock de patrimoine provient de l'héritage. Si l'héritage est omniprésent dans le roman du XIXe siècle, ce n'est pas seulement du fait de l'imagination des écrivains, et en particulier de Balzac, lui-même criblé de dettes et contraint d'écrire sans arrêt pour les rembourser. C'est avant tout parce que l'héritage occupe de fait une place centrale et structurante dans la société du XIXe siècle comme flux économique et comme force sociale. Et son importance ne faiblit pas au cours du temps, bien au contraire. Vers 1900-1910, à la Belle Époque, le flux successoral pèse encore un peu plus lourd que dans les années 1820, à l'époque de Vautrin, de Rastignac et de la pension Vauquer, près de 25% du revenu national contre guère plus de 20%. On observe ensuite un effondrement spectaculaire du flux successoral entre les années 1910 et les années 1950, suivi par une remontée régulière depuis les années 1950 jusqu'aux années 2000-2010, avec une accélération à partir des années 1980. L'ampleur des variations à la baisse, puis à la hausse, au cours du siècle écoulé, est extrêmement forte. Le flux annuel de succession et donation était relativement stable, en première approximation, et par comparaison aux chocs qui ont suivi, jusqu'au premier conflit mondial, avant d'être subitement divisé par environ 5-6 entre les années 1910 et 1950, où le flux successoral est d'à peine 4-5% du revenu national, puis d'être multiplié par environ 3-4 entre les années 1950 et 2000-2010, où le flux avoisine les 15% du revenu national. Ces évolutions indiquées sur le graphique 11.1 correspondent à des transformations profondes de la réalité et aussi des perceptions de l'héritage et dans une large mesure de la structure des inégalités. Comme nous allons le voir, la compression du flux successoral à la suite des chocs des années 1914-1945 a été près de 2 fois plus forte que la chute des patrimoines privés dans leur ensemble. L'effondrement successoral est donc un phénomène qui ne peut se résumer à un effondrement patrimonial, même si les deux évolutions sont évidemment étroitement liées. L'idée de la fin de l'héritage a d'ailleurs marqué les représentations collectives beaucoup plus fortement encore que l'idée de la fin du capital. Dans les années 1950-1960, les successions et donations ne représentent plus que l'équivalent de quelques points de revenu national par an, si bien que l'on peut légitimement s'imaginer que l'héritage a pratiquement disparu et que le capital, outre qu'il est globalement moins important que par le passé, est désormais une substance que l'on accumule par soi-même grâce à l'épargne et à l'effort. Plusieurs générations ont grandi avec cette réalité, parfois, il est vrai, un peu embellie dans leur perception, notamment les générations du baby-boom, celles nées dans les années 1940-1950, et encore très présentes en ce début du XXIe siècle, et assez naturellement, elles se sont parfois imaginées qu'il s'agissait là d'une nouvelle normalité. À l'inverse, les générations plus jeunes, en particulier celles nées à partir des années 1970-1980, connaissent déjà, dans une certaine mesure, l'importance nouvelle que l'héritage va jouer dans leur vie et dans celle de leurs proches. Par exemple, la présence ou non de donations significatives détermine pour une large part qui, en leur sein, va devenir propriétaire, à quel âge, avec quel conjoint, où et pour quelle surface, ou en tout cas bien plus fortement que pour les générations de leurs parents. Leur vie, leur carrière professionnelle, leurs choix familiaux et personnels sont beaucoup plus influencés par l'héritage, ou par son absence, que celle des baby-boomers. Ce mouvement de retour de l'héritage reste cependant incomplet et toujours en cours. Le niveau du flux successoral en 2000-2010 se situe environ au milieu entre le point bas des années 1950 et le point haut des années 1900-1910. Et à ce jour, il a beaucoup moins profondément transformé les perceptions que le mouvement précédent, qui continue dans une large mesure de dominer les représentations. Il pourrait en aller tout autrement d'ici à quelques décennies. Flux fiscal et flux économique. Plusieurs points doivent être immédiatement précisés au sujet des évolutions représentées sur le graphique 11.1. Tout d'abord, il est essentiel d'inclure les donations, les transmissions de patrimoine faites du vivant des personnes, parfois quelques années avant le décès, parfois un peu plus tôt, dans le flux successoral, car cette forme de transmission a toujours joué un rôle très significatif en France au cours des 2 derniers siècles, comme d'ailleurs dans toutes les sociétés. L'importance exacte des donations relativement aux successions a en outre beaucoup varié dans le temps, et ne pas les inclure dans l'analyse risquerait donc d'entraîner des biais importants dans l'analyse et dans les comparaisons spatiales et temporelles. Fort heureusement, les donations sont relativement bien enregistrées en France, quoique sans doute légèrement sous-estimées, ce qui n'est pas le cas dans tous les pays. Ensuite, et surtout, la richesse des sources historiques françaises nous permet de calculer le flux successoral de 2 façons différentes à partir de données et de méthodes totalement indépendantes les unes des autres. Cela nous conduit d'une part à constater la très grande cohérence entre les 2 évolutions représentées sur le graphique 11.1, que nous avons choisi d'appeler le flux fiscal et le flux économique. Ce qui est rassurant et démontre la robustesse des faits historiques ainsi mis à jour. Cela va nous permettre d'autre part de mieux décomposer et analyser les différentes forces en jeu derrière ces évolutions. Les développements qui suivent sont un peu plus techniques que les précédents, mais nécessaires pour bien comprendre l'origine des évolutions observées. De façon générale, on peut procéder de 2 façons pour estimer l'annuité successorale dans un pays donné. On peut soit partir directement du flux observé de succession et donation, par exemple à partir de données fiscales, c'est ce que nous appelons ici le flux fiscal, soit partir du stock de capital privé et calculer le flux théorique de transmission patrimoniale, qui a logiquement eu lieu au cours d'une année donnée, C'est ce que nous appelons ici le flux économique. Chaque méthode a ses avantages et ses inconvénients. La première méthode est plus directe, mais les données fiscales sont dans de nombreux pays trop incomplètes pour qu'elles soient totalement satisfaisantes. En France, comme nous l'avons noté dans le chapitre précédent, le système d'enregistrement des successions et donations est exceptionnellement précoce, il remonte à la Révolution, et étendu. Il concerne en principe toutes les transmissions, y compris la plupart de celles qui sont peu ou pas taxées, avec toutefois quelques exceptions. Si bien que cette méthode fiscale est praticable. Il faut cependant corriger les données fiscales pour prendre en compte certaines petites transmissions échappant à l'obligation déclarative, relativement peu importante, et surtout en ajoutant une estimation des transmissions sous forme d'actifs exonérés de droits de succession, tels que les contrats d'assurance vie qui se sont beaucoup développés depuis les années 1970-1980 et qui représentent aujourd'hui près de 1/6 du total des patrimoines privés français. La seconde méthode, celle du flux économique, a l'avantage de reposer sur des données non fiscales et de donner par conséquent une vision plus complète des transmissions patrimoniales, et surtout indépendante des vicissitudes de la fiscalité et des stratégies de contournement de l'impôt dans les différents pays. L'idéal est de pouvoir appliquer les deux méthodes pour un même pays. On peut d'ailleurs interpréter l'écart entre les deux évolutions indiquées sur le graphique 11.1 comme une estimation de la fraude fiscale ou des défauts du système d'enregistrement des transmissions. On notera que le flux économique est toujours un peu plus élevé d'environ 1 à 2% que le flux fiscal. Cet écart peut aussi être dû à d'autres raisons, en particulier aux multiples imperfections des différentes données disponibles et de la méthode utilisée. Pour certaines sous-périodes, l'écart est loin d'être négligeable. Les évolutions d'ensemble observées sur longue période, qui nous intéressent en premier lieu dans le cadre de cette recherche, sont cependant parfaitement cohérentes avec chacune des deux méthodes.